Carlène de Masure, vous êtes belge, vous êtes depuis 2 ans directrice exécutive à Rome du Centre de protection pour les enfants. Vous avez un parcours très riche puisque vous avez commencé vos études de théologie pratique à Leuven. Vous avez fait une thèse sur les abus sexuels. Vous êtes partie ensuite à Ottawa. Vous avez été doyen de philosophie et de sciences humaines. Vous avez enseigné dans différents endroits, en Afrique du Sud, en Belgique, et vous avez été aussi au Congo avec votre mari pendant 4 ans pour enseigner la religion. Carlène de Masure, quand vous regardez votre parcours, quels ont été les points charnières de votre parcours, là où tout s'est déclenché pour que vous arriviez ici maintenant à Rome dans cette responsabilité importante?
En effet, moi j'ai toujours su que Dieu a un plan avec tout le monde et que quand on réfléchit bien ou quand on prie, on le connaît. Cependant, souvent on ne le suit pas. Moi j'étais aussi comme ça. Je mettais d'autres priorités. Là, on voit que ça ne va pas. On le sent. Et les années que j'ai fait au Congo avec mon mari, c'était la formation des catéchistes. Là, j'étais dans le bon chemin. Mais après, je voulais comme plus travailler dans ce domaine. Ce n'est que beaucoup d'années plus tard que j'ai repris l'étude de la religion, de la théologie à Leuven. Et là, j'ai senti à nouveau que vraiment, c'était ça mon chemin. Entre-temps, j'avais aussi enseigné la religion dans une école secondaire. Et là, il y avait une fille et elle racontait qu'elle avait été abusée par son père. Et il n'y avait personne qui savait comment il fallait réagir. Alors, en Belgique, on a un service psychomédical. On invitait les médecins, même le psychiatre, qui ne savait pas ce qu'il fallait faire. Alors, moi, j'ai dit, ça y est, moi, je vais de retour à l'université de Leuven, je vais étudier la théologie à nouveau et je vais faire un doctorat sur ce thème. Mais donc, ça a été cette rencontre avec cette fille. Et puis, il y avait évidemment d'autres qui dénonçaient leur père ou leur frère ou leur oncle. Ça a été très important pour moi. Quand je vais beaucoup plus en arrière, c'était en effet à l'école, c'était une école catholique. Mes parents n'étaient pas croyants, mais ils m'avaient envoyé à une école catholique parce que c'était le meilleur enseignement. Et c'était des sœurs qui menaient l'école et il y avait, comme dans la puberté, toujours des problèmes aussi chez moi. Et j'ai été beaucoup aidée par un prêtre qui était le professeur de religion. Et je peux dire qu'en effet, la première conversion, je l'ai eue là. Et je peux dire que j'ai été convertie une deuxième fois à cause de cette fille.
À cause de cette fille qui s'est plainte d'avoir été abusée.
Abusée, oui.
Et là, vous avez senti que c'était votre voie?
Oui. Je sentais que c'était mon chemin et j'en parlais à la maison avec mon mari. Et mon mari disait, oui, tu arrêtes de travailler, tu vas le venir, tu vas faire ton doctorat.
Nous sommes dans les années 2000 et vous faites votre doctorat. Dites-moi le titre de votre doctorat.
Le titre, c'était « Être égaré entre l'amour, le pouvoir et la culpabilité ».
Être égaré entre l'amour, le pouvoir et la culpabilité. Vous vouliez démontrer quoi?
Je voulais démontrer comment une victime se sent, mais ça va aussi sur les abuseurs. Et tout le monde dans l'abus sexuel est égaré. On ne sait plus ce que c'est la vraie amour. On ne sait plus ce que c'est le pouvoir où on le connaît trop bien, où on pense qu'on a perdu le pouvoir en tant que victime. Celui qui a abusé en prend trop. Puis la culpabilité, la victime qui n'est pas coupable du tout pense qu'elle est coupable, tandis que celui qui est coupable, l'abuseur, pense qu'il n'est pas coupable. Donc ces trois mots, ça servait aux deux parties. On a la tâche, on a le devoir de prendre soin, en effet, des deux parties, mais évidemment les victimes en premier.
Comment peut-on expliquer que la personne qui a abusé sexuellement ne se sente pas coupable de ce qu'elle a fait?
Parce qu'en effet, il projette la culpabilité sur l'autre. Il va chercher des excuses, des justifications, il va vous dire « c'est elle qui l'a voulu ». Ou il va dire « tout le monde a besoin d'une éducation sexuelle et moi, comme père, je suis quand même la personne la meilleure placée pour faire cette chose-là ». Ou on va vous dire « mais vous savez, c'est une chose de la culture, parce que dans d'autres cultures, comme la culture grecque dans le temps, on pouvait avoir le sexe avec un enfant ». Donc, cette façon de s'excuser, ça s'appelle en termes techniques les distorsions cognitives, ça lui appartient et il dit ça pour se justifier lui-même. Lui, il pense que ça fonctionne, mais pour les gens qui écoutent ça et qui ne sont pas des abuseurs, ça sonne vraiment non acceptable.
À l'issue de cette thèse, vous avez continué vos recherches. Il y a ensuite un livre qui est sorti qui s'appelle « Se relever après l'abus sexuel, accompagnement psychospirituel des survivants ». Qu'est-ce que vous donnez comme moyen pour les abusés de se relever?
De ce livre, on l'a écrit avec plusieurs personnes. On m'avait demandé d'écrire ce livre pour le faire toute seule. Je n'avais pas vraiment le temps. Mais j'ai proposé de faire un tel livre qui traitait des choses psychologiques et spirituelles. C'est l'image de la résurrection qui est très centrale. Et c'est pour ça aussi qu'on prend le titre de survivant ou le mot survivant et non pas victime. Parce que si on prend le mot victime, c'est comme on classifie quelqu'un pour le reste de sa vie dans une certaine catégorie, situation, et qu'il ne peut plus ou qu'elle ne peut plus en sortir. Tandis qu'il est bien possible d'en sortir et de devenir un survivant ou même ce qu'on appelle maintenant en anglais « thriver ». Parce qu'on veut indiquer clairement qu'il est même possible, pas toujours, mais dans certains cas, que cet abus sexuel n'est plus le centre de votre vie et que, en parlant ou en racontant votre histoire de vie, tout ne réfère plus à cette situation d'abus. Pour ça, il faut un bon soin, il faut un bon accompagnement.
Un bon suivi.
Oui, sur deux niveaux, sur le plan spirituel et sur le plan thérapeutique. Parce que l'abus sexuel nuit au développement psychologique, mais aussi au développement spirituel. Par exemple, une dame a dit, moi je ne peux plus prier, parce que vous savez, pour une prière, il faut le silence. Et moi je ne veux pas le silence, parce que là, les images de l'abus reviennent tout le temps. Donc, elle dit, ils m'ont même enlevé la prière. Ceux qui ont été abusés n'ont pas fait de péché, de toute façon, pas en ce qui concerne l'abus. On a péché contre eux. Alors, elles disent les victimes, mais quel est notre sacrement? Comment est-ce qu'on va prendre soin de nous?
Comment pouvez-vous prévenir les abus sexuels dans le clergé?
Il faut bien savoir qu'une prévention se fait à différents niveaux. Et il faut donner une formation aux familles, aux professeurs des écoles, dans la société plus large, dans l'Église tout entière, dans la société et ses valeurs. Donc, une bonne prévention ne se fait pas seulement individu à individu ou dans un petit groupe. Il faut vraiment aller ailleurs, par exemple, des campagnes médiatiques.
Parmi ceux qui nous écoutent en ce moment, il y a des auditeurs, des auditrices qui peut-être ont vécu ce que vous accompagnez depuis plus de 20 ans. Qu'est-ce que vous leur diriez?
Briser le silence. C'est le plus important parce que si vous ne parlez pas, ça va pas guérir de soi-même. Nous disons le temps guérit, mais le temps ne guérit rien. Le temps est un élément dans le processus si on fait quelque chose. Et faire quelque chose, ça commence par parler. Deuxièmement, chercher quelqu'un avec qui vous pouvez parler de ces choses, donc pas une amie à laquelle vous racontez une fois l'affaire, mais va chercher quelqu'un qui a de la compétence dans l'accompagnement. Troisièmement, cet accompagnement ne peut pas être seulement séculier, mais doit aussi avoir un élément spirituel ou théologique, parce que c'est très important de ne pas oublier cette partie. Il faut savoir que briser le silence, c'est le seul moyen aussi pour mettre fin à ces abus sexuels, parce que ce n'est qu'en parlant que finalement l'Église a bougé.
Carlène de Mazur, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose?
Ce que je veux encore dire, c'est en deux mots, ma motivation théologique. Pour moi, ça existe en deux volets. Et le premier volet, c'est l'histoire de l'Exode, où on voit clairement qu'il faut s'opposer à l'oppression. Dieu sauve les gens qui sont opprimés. Il punit même ceux qui ont fait de l'oppression, qui ont opprimé. Parce que les gens, le peuple juif, là, n'avait pas le droit de parler. Et c'est ça qu'on voit aussi avec les victimes d'abus sexuels. Ils sont opprimés et ils n'ont pas le droit de parler parce que c'est ça que l'abuseur essaie de faire avec son pouvoir en premier lieu. Parce que dès que vous parlez, vous brisez le pouvoir. Et Dieu les mène à la terre promise. Ce qui veut dire qu'une autre vie est possible, qu'on peut sortir avec l'aide de Dieu de cette oppression. Mais le deuxième volet, c'est la croix et la résurrection. La croix me montre que Dieu veut aussi mettre fin à la souffrance. Et souvent, la théologie catholique risque de s'arrêter à la mort en croix. Mais la fin de notre histoire, c'est la résurrection et les apparitions, mais c'est la résurrection. Et la résurrection montre qu'une nouvelle vie est possible, pas seulement après, hein, mais maintenant. Cette nouvelle vie, c'est symbolisé dans la résurrection, mais même le mot le dit, c'est être debout. Et c'est ça le but dans l'accompagnement des victimes. Il faut qu'ils se ou elles se relèvent.
Merci Carlène de Mazure.